Merci Seigneur pour ce temps devant sa face. On veut continuer de nous tenir devant sa face, mais d'une autre manière, c'est-à-dire en nous tenant devant sa parole. C'est pour cela que je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu au chapitre 6. Est-ce que vous pensez que vous savez bien prier? Est-ce que vous pensez, vous n'osez pas me répondre, est-ce que vous pensez que vous avez encore besoin que le Seigneur nous donne ses conseils? Amen. Voilà, on peut avoir vécu une belle vie avec la prière, vivre des expériences avec le Seigneur, mais c'est toujours bon d'entendre les conseils du Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 6, justement, Jésus nous invite à écouter les conseils concernant la prière. Matthieu chapitre 6, verset 7. Alors, il y aurait même le verset 6 qui serait intéressant, mais on le fera un autre jour. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ne leur ressemblez pas. Voici donc comment vous devez prier. Et là, on connaît tous, presque par cœur, cette formule, mais qui est cette démonstration de prière de la part du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et si vous êtes d'accord, vous avez le droit de dire amen. En plus, c'est marqué, hein. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais ce matin, je voudrais qu'on s'arrête sur cette expression qui m'a interpellé. Ça fait déjà plusieurs semaines, mais je n'ai pas eu l'occasion de le partager avec vous. C'est cette expression « sur la terre comme au ciel ». Et je trouve que j'aime bien, moi, dans la parole de Dieu, trouver des définitions de la foi. Et je trouve que c'est une bonne définition de la foi. La foi, c'est vivre le ciel sur la terre. Amen. Ça vous convient comme définition? Oh, il y en a beaucoup d'autres, hein. Dans Hébreux chapitre 11, il y en a certaines qui sont très intéressantes aussi. Mais ce matin, on veut s'arrêter sur cette dimension-là. La foi, c'est de vivre le ciel sur la terre. C'est pour ça que Jésus, dans sa prière, dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Que ce qui se passe dans le ciel puisse aussi prendre place sur la terre. C'est une façon de faire qui a lieu dans le ciel, qui doit être imité sur la terre. Alors, souvent, c'est vrai, on associe sur la terre comme au ciel à seulement que ta volonté soit faite. Mais quand on lit attentivement le texte, on s'aperçoit que ce sont les trois prières, c'est-à-dire que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Ce matin, je voudrais juste m'arrêter sur la première, donc que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que Jésus, c'est le mieux placé pour nous expliquer ce qui se passe dans le ciel. Jean-Baptiste va dire de lui, dans les premiers chapitres de Jean, l'autre Jean, il va dire de Jésus, c'est celui qui vient d'en haut, celui qui est descendu du ciel. Donc Jésus a vu ce qui se passait. Même Jésus de lui-même va dire, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc Jésus sait ce qui se passe dans le ciel. Bon, de toute façon, il est Dieu, hein. On ne revient pas sur ça. Mais il sait, il est venu du ciel, il a vu comment les choses se passent et il a été envoyé sur la terre. On l'a assez chanté ce matin, je ne vais pas le répéter. Il a été envoyé pour nous montrer ce qui se passe dans le ciel et que ça puisse prendre place dans notre vie, dans notre cœur et aussi sur la terre de manière générale. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Est-ce que c'est juste une formule magique, mécanique que l'on répète sans prendre garde à la puissance qu'il y a derrière? Ou alors, on veut justement creuser, savoir ce que le Seigneur veut nous apprendre? Pour vivre le ciel sur la terre, on doit apprendre à sanctifier le nom du Seigneur. Et le gros travail ce matin, ça va être de définir qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom du Seigneur. Puisque c'est facile de répéter que ton nom soit sanctifié. C'est facile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique pour ma vie? Déjà, la première question, c'est comment le nom de Dieu est sanctifié dans le ciel? Ben là, c'est facile, hein? Vous allez dans Apocalypse, je le fais pour vous, mais notez si vous voulez la référence. Apocalypse chapitre 4, on a quelque chose d'incroyable. Apocalypse chapitre 4, c'est comme si on avait les nuages qui s'ouvrent et on voit ce qui se passe dans le ciel. Le trône de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Autour du trône de Dieu, il y a toutes sortes de personnes qui sont là. Il y a les quatre êtres vivants, il y a les 24 vieillards qui sont là, qui représentent les croyants. Il y a une mer de cristal qui est là. Et voilà, il y a tout ça qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils font ces personnes qui entourent le trône de Dieu? Il y a les anges, bien sûr. Ils sont en train de dire, alors je l'ai noté pour vous, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Est-ce qu'on peut dire que dans le ciel, le nom du Seigneur, il est sanctifié? Ben, s'il y a bien un endroit où on peut dire ça, de manière parfaite, c'est bien dans le ciel, là où Dieu, il a son trône. Dans les psaumes, on voit, le psaume 11 nous dit que l'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Le psaume 102 nous dit, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde la terre. Ce matin, savez-vous que l'Éternel regarde dans ce lieu? Alors, il ne regarde pas que dans ce lieu, hein. Soyons pas chauvins. Mais il regarde partout sur la terre. Et il regarde avec ce regard de, comme on en parlait tout à l'heure, de cette recherche de quelqu'un qui va être un adorateur en esprit et en vérité. Mais ces versets nous décrivent quoi? Que le ciel est le Saint-Temple de Dieu. Alors, bien sûr, ce n'est pas le ciel, la stratosphère au-dessus de notre tête, hein. C'est quelque chose de spirituel. Dieu habite dans des lieux invisibles. C'est ça qu'on appelle le ciel. Mais c'est le lieu élevé de sa sainteté. Dans le ciel, on sanctifie le nom du Seigneur à longueur de temps. Et je vous rassure, un jour, on fera pareil. On participera, chacun pour notre part, à cette louange. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce matin, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme c'est fait dans le ciel? Cette fois-ci, on va prendre un autre texte ensemble. C'est le psaume 29. Je trouvais que c'était une bonne définition. Je vous disais, j'aime bien les définitions concernant la foi, mais j'aime bien, dans la parole de Dieu, on trouve toutes sortes de définitions. Quand on ne trouve pas, qu'est-ce que ça veut dire telle expression, ben, la parole de Dieu nous enseigne. Il faut juste chercher, il faut juste méditer, et le Seigneur nous parle. Psaume 29, verset 1er. Et on a une grande richesse en français, je crois qu'on a plus de 60 versions de la Bible. On a une grande richesse dans les traductions, et c'est très intéressant. Même ce matin, ce qui m'a interpellé, c'est quand j'ai lu le verset en anglais. C'est pour vous dire. Il y a vraiment une richesse dans les langues. On a entendu d'autres langues encore ce matin. Regardez ce qu'il est dit. Psaume 29, verset 1er. « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. » Ou la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Cette dernière phrase, cette dernière expression, les ornements sacrés, dans certaines versions, elle est appliquée à Dieu, ce qui donne ceci, adorez l'Éternel dans sa sainte magnificence. Ou alors prosternez-vous devant la beauté de ta sainteté. Est-ce que vous voyez la différence? C'est-à-dire que la sainteté, elle est appliquée à Dieu. Dieu est parfaitement saint et magnifique en sainteté. Et en anglais, c'était ça, the beauty of your holiness. La beauté de ta sainteté. J'ai eu à cœur de prendre le dernier chant et je me suis aperçu que c'est ce qu'on a chanté exactement. Je n'avais même pas fait le lien. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, vous voyez, c'est cette notion-là qu'il nous faut d'abord comprendre pour pouvoir sanctifier le nom du Seigneur. Quelqu'un qui veut sanctifier le nom du Seigneur et qui ne prend pas le temps de contempler la beauté de la sainteté de Dieu, ben il va se louper, forcément. Parce que, comment c'est possible de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas? Ben ce n'est pas possible. Quand on regarde ce verset, en fait, il y a un processus. Je contemple la sainteté du Seigneur, je réalise la place qu'il mérite, la gloire due à son nom, je me prosterne, je me soumets, ça veut dire. Et puis, je vais rendre gloire à son nom. Ou alors, on pourrait le dire autrement, je vais sanctifier son nom. Je vais faire dans ma vie ce que Dieu veut que je fasse et qui va être saint. Amen. C'est ça, sanctifier le nom du Seigneur. Sanctifier, juste le mot, ça veut dire considérer quelque chose comme sacré. Donner une place à part. Voilà pourquoi il y avait une flamme, un feu qui était sanctifié dans le sanctuaire. Et à un moment donné, il y en a qui ont dit, oui, mais c'est bien, mais nous, on va apporter notre feu. Un feu étranger. Lisez ce qui s'est passé, ça s'est mal passé pour ceux qui ont fait ça. Parce qu'ils ont pris quelque chose de commun, quelque chose que Dieu n'avait pas dit qui était ça, et ils ont dit, ça, c'est ça. Ça, c'est important. Alors que Dieu avait dit, non, c'est ça qui est important. C'est tellement, tellement sérieux, les choses dont on parle ce matin. Sanctifier son nom, c'est reconnaître Dieu, reconnaître sa nature, reconnaître son caractère, le craindre, l'adorer comme ça, le considérer comme sacré, premier, central dans notre cœur, et lui dire, Seigneur, permets-nous, quand je prie que ton nom soit sanctifié, Seigneur, permets-moi de te donner la place que tu mérites en tant que Dieu très saint. C'est tout ça que ça veut dire. Alors, on n'en a pas forcément conscience, hein, mais ça va très loin, ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes appelés à sanctifier le nom du Seigneur. Ça veut dire que le ciel doit influencer notre vie sur terre. Et Dieu est merveilleux parce qu'il nous a donné son Esprit Saint pour que nous puissions recevoir ce qui se passe dans le ciel, nous est révélé par le Saint-Esprit dans notre cœur pour qu'on puisse ensuite le mettre en pratique. Le ciel influence notre vie sur terre. Vous savez que dans l'Apocalypse, on a beaucoup d'enseignements sur ce qui se passe au ciel. Mais il y a un verset qui parle de la Jérusalem céleste, justement, qui parle de la ville sainte, l'endroit où tous les rachetés vont être un jour rassemblés, et c'est l'endroit où Dieu, il a son trône. Et vous savez ce qu'il est dit ? Il n'entrera chez elle rien ni personne de souillé. Il n'entrera personne de souillé dans le ciel qui est saint. Jésus va le dire d'une autre manière dans Matthieu. On va lire beaucoup de textes, enfin, je vais en citer du moins beaucoup, en me cantonnant à Matthieu. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Sous-entendu, si on le prend à l'envers, celui qui n'a pas le cœur pur ne verra pas Dieu. Est-ce que vous me dites, non, tu vas trop loin dans ce que tu... Non, non, mais c'est ce que dit la Bible. La Bible, elle est une épée à double tranchant. Il y a la bénédiction quand on la met en pratique et il y a la malédiction quand on la rejette. Celui qui n'a pas le cœur pur ne verra pas Dieu parce qu'il n'entre rien de souillé ni d'impur dans le ciel. C'est ce que nous dit la parole. Mais le Seigneur nous dit, mais heureux, bénis sont ceux qui ont le cœur pur. Alors la question qui monte dans notre cœur, c'est mais comment est-ce qu'on peut avoir le cœur pur? Comment est-ce qu'on peut vivre dans la sainteté? Ben, c'est simplement en acceptant l'œuvre de la croix. Si je vous dis que je suis resté en plein soleil toute une journée, et que je me présente devant vous blanc comme un cachet d'aspirine. Vous allez me dire que le soleil il a sûrement dû taper très fort sur la tête, mais pas le reste du corps. Parce que si je suis exposé au soleil, je vais porter la marque du soleil. C'est normal. Et même des fois, je vais me prendre un coup de soleil. Le soleil va y aller fort. Mais c'est la même chose avec la présence de Dieu, avec la sainteté de Dieu. Si je dis que je suis en communion avec le Dieu très saint, et que je suis grossier, et que j'ai des pensées impures, et que je me comporte mal, et que je dis des mensonges, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Parce que quand on est exposé à la présence sainte du Seigneur, notre vie devient sainte. Amen. C'est la même chose que le soleil. D'ailleurs, il est dit que la face du Seigneur rayonne plus fort que la lumière du soleil. Quand nous nous présentons devant lui, simplement, honnêtement, il y a quelque chose qui se passe. Quand c'est avec un cœur sincère, si notre cœur est fermé, bloqué, verrouillé à triple tour, il ne va rien se passer. C'est comme si on se met au soleil sous une couverture, on va avoir chaud, c'est tout ce qu'on va avoir. Mais le Seigneur veut par sa sainteté marquer notre cœur, notre vie. Et il veut que nous passions des moments de qualité dans sa présence qui vont nous marquer afin qu'ensuite on puisse rayonner de la sainteté du Seigneur, sanctifier son nom autour de nous. Mais pour sanctifier le nom de Dieu, on le disait, il faut d'abord avoir un cœur saint. C'est obligatoire, un cœur pur et un cœur saint. Pierre va dire, en résumant la bonne nouvelle à Corneille, il va dire, « Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà le moyen d'avoir un cœur pur. Recevoir par la foi le pardon des péchés, parce que j'ai la foi en Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur. Et on voit que c'est important, il y a quelque chose dans la sainteté de Dieu qui est rattaché au nom. Alors on ne veut pas faire comme certaines pseudo-religions chrétiennes qui disent que c'est le nom, l'éternel Yahvé qui est important, Jéhovah. Non, ce qui est important, c'est la façon dont on va vivre, qu'on va comprendre ce que ça veut dire que vivre au nom du Seigneur et comment on va le pratiquer dans notre vie de tous les jours. La sainteté de Dieu ne peut se répandre que par des vases saints, remplis d'Esprit Saint. C'est le seul moyen, c'est le meilleur moyen que Dieu a trouvé pour le faire. Parce que c'est son plan, ce sont les projets, les, ce qu'on a entendu tout à l'heure, les œuvres préparées d'avance. Nous devons sanctifier le nom du Père, notre Père qui est dans les cieux, mais on peut le faire en sanctifiant le nom du Fils. Savez-vous qui c'est qui a envoyé Jésus sur la terre? Oui, vous le savez. Je vous le dis d'avance. Je suis venu au nom de mon Père. Jésus a dit ça. Ce qui veut dire quoi? Que dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, toutes les pensées, toutes les actions, tout l'enseignement qu'il a donné, c'était au nom du Père qu'il le faisait. Donc si nous croyons au nom du Fils, si nous sanctifions le nom du Fils, nous sanctifions le nom du Père. Et dans Matthieu, nous voyons plusieurs expression qui nous parle de ce qui est fait au nom de Jésus. Par exemple, Matthieu 28. Alors là, je vais vous faire travailler dans Matthieu. Une fois que vous avez trouvé Matthieu, vous avez trouvé toutes les lectures d'aujourd'hui. Matthieu 28, verset 19. Là, c'est facile, c'est à la fin de Matthieu. Qu'est-ce qu'il est dit par rapport aux actions qui doivent être faites dans le nom du Seigneur? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Alors là, c'est facile, ils y sont tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sanctifier le nom du Seigneur, ça veut dire je me fais baptiser parce que j'ai reçu un cœur pur et je veux montrer maintenant mon engagement de manière publique. Ce qui est très intéressant, c'est une question que Jésus va recevoir des pharisiens, des scribes, et Jésus lui va poser une autre question sur le baptême de Jean. Dans Matthieu 21, verset 25, regardez ce qu'il est dit. Matthieu 21, 25, alors que les pharisiens sont là, ils disent « Mais de quelle autorité fais-tu ces choses ?» En gros, pour qui tu te prends ? Jésus va leur dire « Si vous me répondez bien, je vais vous répondre moi. » Et il leur dit « Le baptême de Jean, Matthieu 21, 25, le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou de la terre ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent entre eux, si nous répondons du ciel, il nous dira, mais pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous, sauf eux, tiennent Jean pour un prophète. Quelle est la bonne réponse? C'est facile, hein? Jean a baptisé même Jésus, parce que c'était un baptême qui avait été institué de la part de Dieu et qui avait été révélé au cœur de Jean-Baptiste. Jean est allé dans le désert, Jean est allé à des dizaines de kilomètres de la ville principale, mais les gens venaient à lui parce qu'ils voulaient se faire baptiser, parce que c'était quelque chose d'origine céleste. C'est pas quelqu'un qui a dit, tiens, j'ai une idée lumineuse, aujourd'hui je vais baptiser les gens. Non, il a reçu quelque chose dans son cœur de la part du Saint-Esprit et il a mis son œuvre à exécution. Le baptême vient du ciel. Alors, l'acte de se faire baptiser, c'est un commandement qui vient du ciel. L'acte en lui-même, c'est un acte très pratique, hein, de plonger quelqu'un dans l'eau, mais ça symbolise ce qu'il s'est passé dans notre cœur quand le Seigneur nous a plongé dans son corps, dans son Église, qu'il a lavé, nettoyé notre cœur par la foi et nous a donné ce cœur pur. Mais nous devons sanctifier le nom du Seigneur en nous faisant baptiser à la condition d'avoir le cœur pur. Si on se fait baptiser et que notre cœur n'est pas pur, notre baptême n'est pas valable. Mais c'est le Seigneur qui nous invite à le faire. Quand on se fait baptiser après avoir rencontré le Seigneur et avoir reçu ce cœur pur, on sanctifie le nom du Seigneur sur la terre. Matthieu 18, verset 20. Un verset qu'on aime beaucoup répéter dans toutes les églises en France où je suis passé, on le répète ce verset. Matthieu 18, verset 20 nous dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de. C'est Jésus qui parle encore une fois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on est rassemblé dans le nom du Seigneur, là où on est rassemblé pour invoquer le nom du Seigneur, comme ce matin, dans tous ces rassemblements, que ce soit les cultes, les réunions de prière, même les réunions de maison, quand on honore le nom du Seigneur, on est en train de sanctifier le nom du Seigneur. Amen. C'est Jésus qui le dit. Vous voulez sanctifier mon nom, mais là où deux ou trois sont rassemblés, je suis là. Et mon nom est sanctifié, sous-entendu. On voit parfois des gens qui courent après la délivrance. Je me souviens de ce que mon formateur m'avait parlé concernant un monsieur qui était très colérique. Et il faisait des kilomètres pour aller faire des séminaires, pour aller faire des congrès, des ceci, des cela, des églises, des pasteurs remplis soi-disant de puissance, pour être délivré de la colère. Et à chaque fois, il revenait bredouille. Pourquoi ? Mais le pasteur, il lui a dit, mais regardez ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, vous allez être délivré de la colère. Il a dit, renoncez à la colère. Renoncez, ça veut dire, laissez tomber cette mauvaise habitude. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous exorciser de la colère, ça. Non, ça ne marche pas. Mais c'est à vous de prendre par la foi ce que le Seigneur a dit et de grandir et d'être libéré par la puissance du Saint-Esprit. Combien perdent leur temps et du coup ne bénéficient pas de la grâce du Seigneur. Au lieu de participer de manière simple, vous savez, quand quelqu'un veut être béni, quand quelqu'un veut être touché, quand quelqu'un veut être exaucé, il va manifester un zèle particulier. La façon dont on manifeste notre zèle, par exemple pour venir aux réunions, au rassemblement des croyants, là où le Seigneur nous dit que ça sanctifie son nom, mais ça montre à Dieu, ça montre à Dieu l'intérêt que l'on a pour la chose. Si on dit, je veux que Dieu m'aide, mais que jamais je viens à la réunion de prière, jamais je viens au culte, jamais je vais aux réunions, ça ne m'intéresse pas, je veux faire ma foi tout seul dans mon coin, à un moment donné, on risque de rester dans le problème, et ça va durer longtemps. Et j'ai vu malheureusement des gens pendant des années, des dizaines d'années, rester dans leur problème, parce qu'ils n'avons pas compris ce que signifie sanctifier le nom du Seigneur, c'est-à-dire aller là où il y a des hommes et des femmes qui honorent le nom du Seigneur. Et c'est tellement dommage. Vous savez, si on ne sanctifie pas le nom du Seigneur, on disait tout à l'heure c'est à double tranchant, mais c'est vrai, si on ne sanctifie pas le nom du Seigneur, on méprise. L'inverse de sanctifier, c'est mépriser. Prendre pour quelque chose de commun. Le nom de Dieu, c'est quelque chose de commun. Le rassemblement des croyants, c'est quelque chose de commun. Le baptême, oui, c'est pas important. Je connais une personne pendant 20 ans, elle a entendu la parole de Dieu sous tous les angles, les plus grands prédicateurs sont venus dans l'église même, et son cœur est resté de marbre, parce qu'elle n'a pas mis sa foi de manière simple, et compris l'importance que le baptême, ou que le rassemblement des croyants, c'est quelque chose qui sanctifie le nom du Seigneur. Un autre verset, toujours dans Matthieu 18, verset 5, là aussi on ne mesure pas toujours l'importance de ces choses. Quiconque reçoit en mon nom, encore une fois, un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Sanctifier le nom du Seigneur, c'est arriver à voir dans la personne qui est à côté de moi, Jésus-Christ lui-même, et le traiter comme Jésus-Christ m'a traité. Est-ce que vous avez bien été traité par Jésus ? Est-ce que vous avez été bien accueilli ? Est-ce qu'il vous a bien parlé ? Amen. Et est-ce que nous ne sommes pas invité fortement à faire la même chose. Quand quelqu'un de nouveau, quand je rencontre une personne dans la rue, quel que soit ce qui se passe, je veux discerner que c'est peut-être le Seigneur qui me met à l'épreuve et je veux agir de la bonne façon. Attention, si c'est quelqu'un qui nous frappe, il faut se mettre à l'abri quand même, hein. Il faut être sage. Mais pas être dans la violence, pas être dans la réponse. Vous savez, il y a un ancien boxeur qui s'était converti, mais on peut se demander quelle conversion. Il s'est laissé taper sur la joue droite, mais après il a dit tape-moi sur l'autre joue et après c'est moi qui vais continuer. C'est une façon de voir l'évangile, mais c'est pas celle que je crois, c'est pas celle que le Seigneur nous présente. Le Seigneur nous invite à être de ceux qui sanctifient son nom sur la terre. Un autre verset dans Matthieu 7, avant-dernier verset, verset 21. un des plus importants peut-être, quoique tous ils sont importants, hein. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Combien c'est terrible de voir des personnes qui ont dans leur bouche Dieu à tout bout de champ, le Seigneur, qui pensent même travailler pour le Seigneur, qui ont vécu des expériences avec le Seigneur, et à qui finalement le Seigneur va dire « Je ne vous connais pas ». C'est dramatique. C'est encore pire qu'une personne, un pécheur qui n'a jamais entendu parler du Seigneur. Parce que là, et quand même, on peut lui dire « Il n'a jamais entendu ». Mais là, quelqu'un qui a l'impression de tout connaître, et à qui Jésus lui dit « Je ne t'ai jamais connu ». Le problème que Jésus souligne, c'est cette connaissance personnelle, intime et véritable du Seigneur. Ces personnes faisaient plein de choses en son nom. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'on voit, Internet est rempli de personnes qui disent agir au nom du Seigneur. Et à qui le Seigneur va pouvoir dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Mais comment est-ce qu'on peut savoir? Il y a un moyen imparable. D'ailleurs, il est marqué dans les versets qui précèdent. Alors, je n'ai pas noté la référence, mais vous verrez au-dessus. Non, c'est dans ce serment sur la montagne, Matthieu 7, toujours. C'est simple. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. D'accord? Est-ce que le fruit dans ma vie, c'est l'amour? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de moi, la patience? Est-ce que c'est ça le fruit dans ma vie? C'est ça qui sort quand on appuie un peu? Ou est-ce que c'est la division, le trouble, l'impatience, l'égoïsme, l'emportement? J'ai pris tout l'inverse. Vous voyez que ça donne pas trop envie, hein. Mais malheureusement, on a connu des gens qui disent agir au nom de Dieu et qui développent ce genre de fruits-là. Mes frères et sœurs, c'est facile, hein. Quand vous voyez ça, vous pouvez dire c'est pas le Saint-Esprit qui l'anime, c'est la chair. C'est la Bible qui nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Comment est-ce que je connais le Seigneur? Comment est-ce que je sanctifie le nom du Seigneur? C'est en passant du temps dans sa présence et en me délectant de sa parole. Est-ce que vous connaissez Monsieur Macron? Tiens, question. Est-ce que vous le connaissez? Vous voyez qui c'est? Bon, c'est le président, d'accord? Mais est-ce que vous savez quelle est sa couleur préférée? Est-ce que vous savez son plat favori? Est-ce que vous savez à quelle heure il se couche ou à quelle heure il se lève? Est-ce que vous savez l'endroit qu'il préfère aller en vacances? On connaît, on sait que c'est le président, mais on ne le connaît pas. D'accord? Le problème, c'est qu'en français, le connaître, ça a plusieurs sens. Et le sens qui est là, c'est bien connaître la personne. Parce que c'est quelqu'un de la famille. Monsieur Macron, on ne le connaît pas comme ça. Mais le Seigneur, on est appelé à le connaître de cette manière. Parce que il est notre frère, spirituellement parlant. Il est notre Dieu, c'est le Père, notre Père qui est aux cieux. Et il y a une intimité qui doit se développer. Quelqu'un qui veut agir et faire des merveilles au nom du Seigneur, c'est très bien. Mais il doit d'abord développer cette intimité avec le Seigneur qui va être confortée ensuite par les actes qu'il va faire. Mais s'il n'y a que les actes et il n'y a pas l'intimité, tout ce qu'il fait ne sert à rien. Et le Seigneur demandera des comptes à la fin des temps. Et ça sera tellement terrible, j'imagine, le jour où le Seigneur dira, tu as fait ceci, tu as fait cela, quand il dira ses paroles de manière, alors qu'on sera là et qu'il jugera les personnes, tu as fait ceci à cause de moi, tu as fait ceci en disant que c'était mon œuvre, et je ne te connais pas. Vous aimeriez entendre cette parole? Moi, je préfère faire pas beaucoup d'œuvres, mais connaître vraiment le Seigneur, et je sais de toute manière, quand on connaît vraiment le Seigneur, on fait des œuvres sans s'en rendre compte. Mais je veux le connaître. Je veux le découvrir de plus en plus. Parce que celui qui connaît le Seigneur, celui qui rentre dans cette intimité du Seigneur, il va sanctifier automatiquement son nom. Connaître Dieu, c'est connaître tout ce qu'il est. Vous savez que dans la pensée hébraïque, le nom, c'est pas juste l'appellation de la personne, mais ça décrit le caractère. Notre Dieu, par exemple, c'est le Dieu très saint, le Dieu tout-puissant. C'est l'Éternel qui pourvoit. On pourrait faire tous les éternels dans l'Ancien Testament qui parlent des noms de Dieu. Mais quand je connais ces choses, quand je médite sur ça et que je laisse mon cœur être transformé, ensuite, ma vie va être forcément imprégnée de la sainteté de Dieu. Et je vais sanctifier le nom du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, en parlant de la fin des temps, « Prenez garde à ce que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Comment ne pas être séduit? En connaissant le nom du Seigneur. Connaissant, c'est la parole, c'est ça? Connaissant la parole. La Bible, c'est pas juste un livre qu'on doit lire parce que le pasteur il nous dit que c'est bien qu'on la lise. Mais c'est quelque chose qui est tellement primordial. C'est quelque chose, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose à quoi on doit donner la place dans notre vie parce que, en le faisant ainsi, parce que Dieu l'a déclaré ainsi, Jésus parle de la Bible, il dit ce sont les saintes écritures. Si c'est saint, je dois lui donner une place à part dans ma vie. Et frères et sœurs, posons-nous la question. Alors, ne me répondez pas à moi, répondez au Seigneur. Mais quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie? Combien de temps je lui donne par jour? Combien de temps je prends pour réfléchir, pour méditer? Et quel impact, du coup, cette Bible, elle a dans mon quotidien? Un dernier verset, et je termine. Matthieu 19, verset 29. Un autre point très important que le Seigneur, dans lequel le Seigneur nous enseigne, Matthieu 19, 29, « Quiconque aura quitté à cause de moi ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Amen. Attention, si vous dites Amen, vous engagez, hein. Comme si vous signez le contrat. C'est facile de dire Amen en formule magique. Mais quand on dit Amen, Seigneur, c'est ta parole, je veux l'appliquer. C'est pas un verset facile, hein. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou sa soeur. Alors je vous rassure tout de suite, cette formule, c'est une formule hébraïque dans laquelle il faut bien comprendre. C'est pour faire un contraste, pour mesurer une importance. Dieu nous dit pas d'abandonner notre famille, d'abandonner nos enfants sous des ponts, de vendre toutes nos terres et tout ça. Il nous dit pas ça. Il nous dit quelles sont la place de ces choses dans ta vie par rapport à moi. C'est ça. Quitter, c'est quitter dans son cœur. Comme le jeune homme qui était appelé à vendre tous ses biens, mais à laisser l'importance de ses biens dans sa vie pour suivre le Seigneur. Et la question que nous devons nous poser en lisant ces textes, c'est est-ce que l'œuvre de Dieu a plus d'importance dans ma vie que ma famille ou que ma vie terrestre, tout ce que je peux avoir? Qu'est-ce qui a la priorité? Parce que quand je sanctifie quelque chose, je lui mets une place à part. Si Dieu a la priorité dans ma vie, forcément ça va se voir. Forcément c'est quelque chose qui est concret. Et si je veux prier que ton nom soit sanctifié sur la terre comme il est dans le ciel, je vais faire ce qu'il faut. Je vais laisser la parole travailler mon cœur. Je vais laisser le Saint-Esprit. C'est pas moi qui vais vous convaincre de quoi que ce soit, hein, rassurez-vous. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous montre peut-être les endroits où on n'a pas assez quitté. Vous savez qu'on peut avoir des années de vie chrétienne et le Seigneur nous montre encore certaines choses. Et merci Seigneur, parce que ça veut dire qu'on avance. Le jour où Dieu vous parlera plus pour vous dire il n'y a plus rien à changer, ben, inquiétez-vous. Parce que ça veut dire peut-être que vous êtes endurci, que vous êtes devenu sourd spirituellement. Mais quand on marche avec le Seigneur, on marche de progrès en progrès. On vit des choses. Ce qu'on vit dans la présence de Dieu, ça se voit à l'extérieur. C'est ça, sanctifier le nom du Seigneur. Vivre la réalité du ciel sur la terre. Amen, c'est ce que nous désirons. Amen. C'est un petit amen. Ce que nous voulons vraiment. Amen. Si vous ne dites pas amen, je continue à prêcher une demi-heure de plus. Je rigole. Mais on veut vraiment fermer les yeux et demander au Seigneur son intervention dans nos vies. Le but du Seigneur, c'est que nous puissions sanctifier son nom sur la terre. Celui de qui les anges disent « Il est saint, saint, saint !» L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui est célébré dans le ciel avec tant d'abondance, il veut être célébré aussi sur la terre, de cette manière-là. Ce que Dieu déclare saint, mon frère, ma sœur, c'est vraiment saint. Ce n'est pas à prendre à la légère, parce qu'il est le Dieu de sainteté. Ce que Dieu déclare saint, ce que Dieu déclare qui doit être fait en son nom, doit être pris avec sérieux. Rendez à l'Éternel gloire et honneur, nous disait ce verset. Rendez la gloire qui est due à son nom. Seigneur, oui, tu vois ce matin notre désir de sanctifier ton nom. Nous ne voulons pas dire cette phrase à la légère, cette belle prière à la légère. Mais nous voulons mesurer chaque mot, chaque parole, Seigneur, et que, en considérant la beauté de ta sainteté, tu puisses œuvrer dans notre cœur. Parler par ton Saint-Esprit en nous pour nous montrer là où nous avons besoin d'avancer. Et que, en allant auprès de toi, en grandissant dans cette intimité, nous puissions être des hommes et des femmes, des Gersois, dans ce département qui sanctifie ton nom, Seigneur. Tu vois que ce département a besoin d'hommes et de femmes qui sanctifient ton nom, sur la terre comme au ciel. Dans cette terre du Gers, dans cette terre de Hoche, Seigneur, nous voulons nous lever les uns les autres pour être de ceux qui sanctifient ton nom. Seigneur, aide-nous, fais-nous grandir, Seigneur, montre-nous les priorités dans nos vies. Montre-nous, Seigneur, ce que nous avons besoin de changer. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit, oui, nous aide à pratiquer les œuvres qui ont été préparées d'avance pour la gloire de ton nom, Seigneur. Visite-nous encore ce matin. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Comment accomplir des œuvres saintes sans ton Saint-Esprit? Seigneur, c'est impossible. Voilà pourquoi nous te prions de déverser encore dans ces moments, sur chacun de nous, sur chacun de nos cœurs, ton Saint-Esprit, tes eaux vives, Seigneur, ton huile sainte, afin que nous fassions ta volonté et que nous glorifions ton nom, Seigneur. Amen.